Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fripes, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing de celle qui, paraît-il, a toujours une bonne bouteille dans son frigo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais le site de The Slide Family. Delphine Plisson est à la tête de l'épicerie Maison Plisson, mais aussi à la tête d'une entreprise familiale de 5 enfants. Avant de régaler nos papilles, mon invitée a longtemps travaillé dans la mode. Mais son vrai plaisir, c'est la bouffe. Salut Delphine.
Salut Valérie.
Ça me fait hyper plaisir de te recevoir depuis le temps qu'on doit faire ce chiffon ensemble.
Bah oui, moi aussi, je suis ravie.
Parce que tu as quand même un parcours hyper intéressant et en fait, pas que lié à la bouffe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts?
Alors, ça remonte du coup forcément dans l'histoire.
Bon, je te rappelle qu'on a le même âge, hein, donc bon.
Alors écoute, mes débuts pro, j'ai grandi à Créteil déjà, en banlieue parisienne. Et puis, quand j'ai eu de mémoire à peu près 20 ans, j'ai eu différents accidents de vie qui ont fait que j'ai eu envie d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et j'ai pris la tangente, je suis partie vivre à New York un peu sur un coup de tête pour faire un stage dans une galerie d'art où je suis restée finalement assez longtemps avant de revenir à Paris. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai terminé mes études de commerce. À la base, je voulais être libraire. Ma passion, c'était vraiment ça depuis très longtemps.
Il y a d'ailleurs beaucoup de livres chez toi.
Oui, il y a d'ailleurs beaucoup de livres chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. J'étais très amoureuse du vieux monsieur qui tenait l'écume des pages, évidemment, boulevard Saint-Germain. Et quand j'allais le voir tous les deux jours en lui disant « Mais quand est-ce que je peux commencer chez vous ?» Et il me disait « Mais moi, je peux vous former, mais je pourrais pas vous payer. » C'était pas possible. J'avais déjà pas mal de charges et je devais absolument gagner ma vie. J'ai rencontré absolument par hasard une nana extra qui travaillait chez Agnès B. Alors moi, je connaissais absolument pas Agnès B. La scène se passe en 93. J'ai 22 ans.
C'est pas du tout ton univers.
Non, je viens d'un monde où on s'habillait pas du tout dans des marques. Donc, j'avais jamais entendu parler d'Agnès B, en fait. Du coup, on m'a proposé un stage là-bas. Je trouvais ça rigolo. Il fallait faire une étude sur la mode enfantine, je me souviens. Et je me suis donné corps et âme à cette mission. Et j'ai bien fait parce que la fille qui m'avait commandé cette mission est devenue une de mes meilleures amies dans la vie. Et c'est toujours vrai 30 ans après. Valérie Zitvogel, qui a longtemps dirigé Agnès B. Et puis, ça a été aussi un de mes tout premiers salaires dans la mode, puisqu'en l'occurrence, j'ai été payée en robe et j'ai eu une robe à carreaux Vichy Agnès B que j'ai toujours et que je porte toujours 30 ans après, parce que c'est quand même assez marrant d'avoir pour premier salaire dans un secteur. En l'occurrence, la première fois que j'ai été payée dans la mode, c'était une robe Agnès B. Ensuite, je me suis occupée du développement d'Agnès B en Asie, en Europe. Et puis après, je suis passée chez Saint Laurent. Et puis, j'ai navigué quand même pendant plus de 20 ans.
Ah, c'est quand même. Ouais. J'ai découvert ça en préparant l'interview.
Ouais, finalement, plus de 20 ans, ça passe vite, hein, t'as remarqué aussi.
Hélas.
Tu te réveilles un matin et paf, ça fait 20 ans que tu bosses. Et puis, en fait, j'ai rencontré plein de gens passionnants et je fonctionne énormément à ça, aux rencontres.
Au coup de cœur.
Au coup de cœur, à l'instinct, à l'intuition. Et je suis infiniment vivante sur ce plan-là. Donc, j'ai beaucoup plus besoin d'être entourée, de communiquer, d'échanger des énergies, des idées, des envies, etc. Du coup, je me suis régalée, j'ai changé de boîte régulièrement, j'ai eu des postes très variés. Hein. Je te le disais, je me suis occupée du développement d'Agnès B en Asie, à une époque où Agnès B n'était pas en Asie. avec une quarantaine d'ouvertures de boutiques, de la formation d'équipe, du recrutement, du merchandising, de l'événementiel.
Où t'as appris sur le tas, en
fait. Ah, mais ouais, mais c'était une école extraordinaire. Puis, je te rappelle qu'on parle d'une époque où l'informatique était balbutiant. Donc, on faisait tout à la main.
Où il n'y avait pas Instagram et tout ça.
Évidemment. Et puis, on passait les commandes. Il y avait quand même une dizaine de collections différentes. On passait les commandes pour les 40 magasins sur des petits bouts de papier. Enfin, c'était quand même, avec le recul, je me dis, c'était dingue, quoi. Mais c'était génial. C'était une école formidable. Et puis, il y avait un état d'esprit extra. Et j'ai rencontré des amis là-bas qui sont toujours des amis très cher, donc super expérience.
Et tu as fini chez Claudie Pierlot ?
Alors, tout au bout du chemin, ouais. Après, il y a eu Saint-Laurent, après, il y a eu Bali-Barret, après, il y a eu Antique Batik, et j'ai fini, entre guillemets, chez Claudie Pierlot, où un peu par hasard, c'était marrant, Frédéric Bius et Elie Koubi, qui venaient d'investir chez Sandro Image et qui étaient en train de se rapprocher sérieusement de Claudie Pierlot, ont déjeuné avec moi, et à la fin du repas, je me souviens très bien de la date, c'était en janvier 2009, je m'en souviens très bien parce qu'ils m'ont proposé de les rejoindre dans cette aventure et de prendre la direction générale de Claudie Pierlot. Et je leur ai juste répondu, mais les gars, j'accouche dans 15 jours.
Yeah.
Et ils m'ont dit, ouais, mais on sait que tu vas gérer ça. Et j'ai éclaté de rire et 4 jours après, j'étais DG de Claudie Pierlot. Où je suis restée assez longtemps. C'est une boîte que j'aimais énormément, mais j'avais l'impression en plus de boucler une boucle ayant commencé chez Agnès B. 20 ans avant. C'était marrant de boucler par Claudie Pierlot. C'était quand même les deux nanas super... avec un capital sympathie dingue, un style hyper reconnaissable, beaucoup de tendresse de ma part et de la part de tout le monde d'ailleurs pour ces maisons. Donc je me suis beaucoup amusée à faire renaître entre guillemets cette maison pendant quelques années.
Mais un jour, tu t'es dit stop, parce que j'ai l'impression que ta vie c'est un peu comme ça, hein, d'après ce que j'ai
des
pu
étapes,
lire.
Ouais.
Des étapes, tu dis stop, maintenant j'ai envie d'ouvrir une épicerie.
Ouais, en fait, c'est parti, ça part souvent d'un constat, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir bouclé une boucle, j'avais occupé des fonctions hyper intéressantes et rencontré des personnes passionnantes pendant 20 ans, j'avais moins de visibilité sur ce que ce secteur pouvait m'apporter d'aussi excitant pendant les 20 années qui me restaient à bosser, parce que j'avais en l'occurrence 40 ans. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'ai encore envie de ça ? Je suis incapable de faire des choses par raison ou pour payer mon loyer ou je me débrouille toujours pour payer mon loyer.
Par la contrainte,
tu vois. Ouais, non, c'est pas possible. Ça me ressemble pas. Si je m'ennuie ou si j'apprends rien, je vais voir ailleurs, en fait, dans la mesure où j'ai qu'une vie. Tu vois, je suis incapable de rester sur place et d'attendre le prochain train sereinement. Donc, ça m'a pris vraiment lors d'une réunion. Ils annonçaient une ouverture de capital et j'ai juste eu le sursaut absolument spontané de dire « moi, je serais plus là, en fait ».
Mais tu savais ce que tu allais faire ?
Pas du tout. Pas du tout, mais je savais que je serais plus là. Et je savais en plus que si tu sautes pas dans la piscine, tu sauras jamais nager. Mmh. Enfin, à un moment donné, faut se laisser dépasser par son instinct. Et puis, de toute façon, il y a très peu de gens qui meurent de faim à 40 ans parce qu'ils ont décidé de changer de vie. Tu te bouges, j'avais de l'expérience, j'ai une énergie du tonnerre, j'ai un réseau. Enfin, je savais que j'allais m'en sortir. Je voulais juste pas prendre le risque de m'ennuyer. Ça, c'est pour moi, c'est le plus gros risque et c'est le plus grand danger surtout. Et puis, le lendemain, j'ai déjeuné avec mon meilleur ami Nicolas et tout de suite, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai fait? Hier, j'ai fait un truc dingue, je leur ai dit que j'allais partir. J'étais quand même, tu vois, salariée depuis 20 ans, je connaissais que ce modèle. J'avais des enfants à charge, j'avais d'autres personnes à charge, enfin, j'étais pas vraiment libre comme l'air à proprement parler. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah, mais génial, tu vas enfin faire un truc dans la bouffe. Et là, c'est moi qui suis tombée de ma chaise parce que je ça m'avait pas traversé l'esprit.
Ah, pas du tout, jamais.
Pas professionnellement.
C'était même pas un rêve de petite fille.
Non, pas du tout. C'était un truc qui, je pense que le verre est rentré dans la pomme quand je me suis installée à New York et que je passais mes journées chez Dean & DeLuca et dans différents lieux comme ça. Je trouvais ça extraordinaire et je trouvais ça incroyable qu'en France, il n'y ait pas un lieu et une marque qui soit réellement et sincèrement dédié au bon sens, au plaisir, au savoir-faire, à ce terroir dément qu'on a en France. Et je pensais que quelqu'un le ferait. Du coup, j'attendais gentiment, parce que j'avais ma vie professionnelle et mes enfants par ailleurs et mes amis. Du coup, j'attendais que quelqu'un le fasse. Et ce jour-là, quand Nicolas m'a dit « tu vas enfin faire un truc dans la bouffe », ça, y a eu une détonation dans ma tête. Le soir même, j'ai commencé à visionner des dizaines de documentaires sur le bien manger, la saisonnalité, la transparence dans l'alimentation. J'ai lu tous les bouquins. En plus, je suis totalement obsessionnelle de nature. Donc, j'ai passé 2-3 mois à être entièrement immergée. J'avais l'impression d'être une éponge, tu vois, de me nourrir complètement de tous ces témoignages, etc. Et en recoupant toutes ces infos, finalement, s'est dessiné le projet de la Maison Plisson.
Qui est né en quelle année ?
Qui est né en 2014, donc ça va faire
10 ans,
ouais,
bientôt.
Dingue. Et qui est née vraiment comme mes autres enfants, je dirais. C'est-à-dire, il y a eu une période de gestation assez longue pendant laquelle j'ai pu vraiment réfléchir, canaliser les choses, rencontrer des gens, constituer une équipe et surtout avoir le plaisir d'aller à la rencontre des 450 producteurs, maraîchers, éleveurs, vignerons avec qui on allait ensuite travailler. Donc, ça a été une période de rencontres extrêmement riche, de plaisir intense. Et puis, avec des valeurs incroyables. Moi, je sortais d'un secteur où, tu vois, qui était quand même un peu difficile à la fin, au bout de 20 ans.
Qu'est-ce que tu entends par difficile?
Bah, moi, j'ai commencé au début des années 90. Dans la mode, on fabriquait encore en France. On avait des valeurs. On voulait pérenniser les marques. On cherchait pas à les vendre à tout crin le plus vite possible pour le plus cher possible.
Il n'y a pas de marketing à outrance aussi.
Non, voilà, j'ai rien contre l'économie et le business. Au contraire, et comme tout le monde, j'adore l'idée de valoriser les choses, y compris financièrement. Mais je trouvais ça un peu dommage à la fin qu'on ne parle plus que de ça. On parlait plus des vêtements, on parlait plus des clientes, on parlait surtout pas des valeurs parce qu'on, enfin, plus personne ne fabrique en France, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les marges sont absolument démentes, indécentes, que les prix sont absolument décorrélés de la qualité des produits et que on a inscrit. Alors ça se calme, mais je pense que ça va se modérer avec le temps, mais on a fait des nanas en particulier, des consommatrices folles qui sont prêtes à s'endetter pour être à la pointe de la mode qui sera démodée dans 48 heures. C'est quand même un truc d'un vice absolument sournois, quoi. Donc, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'étais vraiment en rupture de valeur. Donc, de toute façon, fallait que je fasse autre chose de ma vie et je pouvais pas aller dans une meilleure direction que vers la bouffe, que vers ces producteurs que j'ai pu aller rencontrer pendant un an dans toute la France et que je rencontre évidemment encore aujourd'hui et qui sont tous passionnés, qui sont tous des bosseurs dingues, qui sont tous pour la peine hyper porteurs de valeurs, de savoir-faire, souvent hérités de leurs parents et où imaginer par leurs soins, mais en tout cas avec vraiment cette énergie, ce sens du travail, du plaisir, de l'effort, etc. Ça, je trouvais ça hyper excitant et ça me plaît toujours autant.
Alors, je ne devais pas te demander ce que l'on trouve dans ton frigo, mais ce que l'on trouve dans ton dressing. Quel est ton style ?
Mon style, c'est sans doute une sorte de confort chic. Le confort passe très clairement avant chez moi. Je le sais parce que j'ai des uniformes. Hein. Enfin, j'ai un style qui est très porté sur les uniformes. C'est-à-dire qu'en hiver, tu me verras dans 9 cas sur 10 avec un jean blanc, un énorme pull bleu marine et des boots assez confortables.
Pourquoi j'ai un jean blanc en hiver ?
J'adore les jeans blancs. Je ne porte pas d'autres jeans que les jeans blancs. Je trouve ça très chic. Je sais pas, il y a un côté, alors évidemment, sans me projeter, hein, mais Jackie Onassis, enfin, tu vois, tu les as, les images de toutes ces nanas avec des jeans blancs. Son nom m'échappe, mais la fille qui jouait dans Love Story, Ally McGraw. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je trouve que c'est un basique absolument fondamental. Alors, c'est pas le plus simple, parce que pour avoir un beau jean blanc qui tient la route sur la distance, qui ne devient pas grisouille ou jaunouille.
Surtout que tu circules pas mal à vélo aussi.
Ouais, surtout que je suis à vélo en permanence. Donc, mais c'est vrai que pour moi, c'est la base. En hiver, je dois avoir 8 jeans blancs. Alors, jean ou pantalon blanc. Mais je trouve ça hyper simple et hyper élégant d'avoir un pantalon blanc, même avec juste une chemise en laine. Moi, j'adore les chemises de Pomander. Tu connais cette marque italienne que j'adore.
Oui, nous étions à un dîner avec monsieur le créateur il n'y a pas longtemps.
Carlo Pomander. Et ouais, j'adore ça. Bah là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai un pantalon Pomander, un t-shirt Pomander et un pull mascotte. Donc, tu vois, je suis dans les codes qu'on adore et qui sont pour moi, voilà, le confort absolu.
Mais tu n'as pas de jean
quotidien.
Blanc.
Pas aujourd'hui. J'avais dit 9 fois sur 10. C'était hier. Ça sera sans doute demain.
Est-ce que tu as changé de style d'ailleurs en changeant de métier ?
Oui, bah, en l'occurrence, à la base, j'avais pas vraiment de style et c'était pas vraiment un sujet qui m'importait beaucoup.
Comme tu disais, t'as pas eu une éducation à la mode.
Non, pas du tout. Et en fait, j'ai changé de style, je pense, au fur et à mesure des boîtes dans lesquelles j'ai bossé, tu vois. Alors, c'était quand même assez simple d'avoir 25 ans chez Agnès B. Donc, évidemment, j'étais habillée en Agnès B et c'était super. En plus, dans les années 90, c'était juste absolument dans l'air du temps et tout ça. Après, chez Saint-Laurent, j'avais plus de mal parce que c'était pas tout à fait mes codes. C'était pas encore Tom Ford. Ça c'était pas encore totalement détendu, si tant est que ça soit tant détendu que ça. Mais c'était un peu plus compliqué. Du coup, je me fondais un peu dans la masse. Par contre, ce qui a toujours été vrai, c'est que j'ai toujours privilégié le confort. Donc, je porte jamais de veste. Par contre,
pourquoi
je porte toujours. Je trouve ça raide. Je trouve ça.
Une veste en velours, c'est pas forcément.
J'aime pas ça. Mais alors, je saurais même pas. Après, je trouve que ça me va pas. Et surtout, j'adore les pulls. J'ai une armoire entière de pulls. Et c'est un. la maille, c'est quelque chose qui me rassure, qui me réconforte, qui me réchauffe, qui me fait du bien au moral autant qu'au corps. Je trouve ça très agréable de ne jamais être contrainte dans mes mouvements. Comme tu le disais, je circule à vélo et puis je suis épicière, donc je passe mon temps à cavaler dans le restaurant et dans le marché. Et je sais pas, j'aime être à l'aise et j'aime avoir des vêtements qui soient souples, voire mous. Mais surtout, c'est pour ça que j'adore la maille. Je pourrais vivre dans des pantalons en maille et des grands pulls. J'adore ça.
Mais tu me parles de maille, mais alors en été, quand il fait 40 degrés?
Alors ça, c'est l'hiver. En été, j'ai un autre uniforme qui est absolument quasiment systématique. J'ai toujours, très souvent, une robe, une grande robe et des sandales à talons. Le côté bicyclette bleue, tu vois.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Je suis beaucoup plus féminine, entre guillemets. Alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose d'être féminine en 2023, mais en tout cas, le côté robe et talons, c'est définitivement réservé à l'été parce que je suis méga frileuse et que j'ai beau avoir une collection de chaussures à talons assez indécente pour avoir bossé pendant 20 ans dans ce secteur, je dois reconnaître que c'est extrêmement rare que tu me vois...
Tu peux les porter avec des grosses chaussettes.
Ouais, bah là, je suis plutôt grosses chaussettes basket ou grosses chaussettes boots ou grosses chaussettes boots fourrées. Enfin, je peux aller très loin dans mon délire de confort. Et
t'as toujours été comme ça ?
J'ai toujours préféré, en tout cas, les vêtements souples. J'aime les pantalons, tu vois, là j'ai un pantalon en laine, j'aime les pantalons confortables. Je peux pas porter des trucs qui me serrent à la taille, je peux pas porter des jupes serrées.
Un slim, c'est pas toi ?
Non, pas du tout. Je comprends même pas. D'ailleurs, c'est pas grand monde, hein. Enfin, sans vouloir être désagréable. Quand tu te balades dans la rue, c'est moins la mode des slims, mais quand tu vois si on se voyait de dos, je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont mis les fesses derrière, c'est pour pas qu'on les voit. Mmh. Parce que c'est rarement réussi le résultat d'un cul dans un slim. En règle générale, je trouve que ça va à pas grand monde. Donc, non, les slims, non, j'adore les shorts. Je porte beaucoup de shorts parce que je trouve ça hyper pratique. T'es toujours à l'aise. Oui. Tu peux cavaler partout. Tu peux faire du vélo, ce qui n'est pas le cas avec une jupe, etc., etc.
Est-ce que tu te sens plus forte en parlant de talons? Est-ce que tu te sens plus forte en talons?
Non, pas du tout. Je me sens forte tout court. J'ai pas besoin de.
Oui, donc quand t'as un rendez-vous hyper important où tu dois négocier, est-ce que tu te mets t'as un uniforme particulier ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai horreur des postures.
Tu puisses ta
pas
force
du tout,
en toi.
En fait, si j'ai besoin de négocier quelque chose, je prépare, j'anticipe, je renforce mes arguments, pas la longueur de ma jupe ou la hauteur de mes talons. Pour moi, c'est des postures, c'est un truc. Je suis pas certaine que. Enfin, déjà, ça me dérange personnellement qu'on se déguise entre guillemets pour répondre à ce qu'on estime être l'attente de la personne qu'on va avoir en face de soi. Je vais pas me déguiser pour aller voir un banquier ou tu vois ce que je veux dire, ou pour aller faire un entretien, etc. Je suis comme je suis, je me contrefous de ce que les gens vont penser de la façon dont je me présente. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont penser de mes idées, de mon énergie, parce qu'en l'occurrence, c'est quand même ce qui reste.
Oui, le regard des autres,
je m'en fous. Je dois reconnaître que j'ai appris à m'en foutre. Je me contente allègrement de ce que je suis. Je connais mes failles et mes forces. Je sais exploiter les unes et les autres en fonction des opportunités et des besoins. Mais le regard de l'autre, non, sauf les quelques rares personnes pour qui j'ai assez de considération pour avoir réellement besoin de savoir ce qu'ils pensent de certaines situations.
As-tu le souvenir d'un fashion faux pas quand même ?
Oh, sans doute un milliard. Fashion faux pas. Oui, fashion faux pas. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme fashion faux pas ? Bah, ça va plus être des trucs. Non, alors, je crois pas au mauvais goût. Enfin, déjà, donc, j'ai dû faire plein de trucs qui ont dû être considérés comme du mauvais goût. Mais moi, le mauvais goût est beaucoup conditionné par la personne. C'est-à-dire que. Une amie chère, je trouverais jamais qu'elle a de mauvais goût. À la limite, je trouverais ça drôle si elle s'habille d'une façon un peu désolante ou décalée ou accidentelle.
Et osée, peut-être aussi.
Ou osée, ou voilà. Tu vois, j'ai une fille qui a 23 ans qui adore la mode et il m'est arrivé parfois de me mordre les joues de l'intérieur pour pas lui dire t'es sûre de sortir comme ça. mais non, je trouve qu'il y a pas vraiment de faux pas, on s'en fout, c'est des vêtements, ça dit quelque chose sur le coup. Et puis, est-ce que j'ai fait des fashion faux pas? Oui, je me suis décoloré les cheveux à blanc, ça devait pas être du meilleur goût. Oui, j'ai porté des jupes méga courtes parce que je savais que j'avais des jolies jambes, mais je me disais qu'il fallait amortir avant que ça parte en cacahuète. Et c'était sans doute pas méga élégant tout le temps. Mais après, je saurais même pas te dire, parce que j'y accorde vraiment pas beaucoup d'importance.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Un tailleur jupe. Un tailleur. J'ai été hôtesse de l'air quand même pendant 5 ans.
T'as été hôtesse de l'air?
Ouais, j'ai été hôtesse de l'air pour payer mes études. Donc j'ai été en uniforme avec ces très jolies silhouettes. Le chignon, la petite robe bien près du corps, les petits talons de 5 un peu ridicules.
Les bas de contention.
Et ouais, les bas de contention. Tu te sens à la fois terriblement ridicule et infiniment hôtesse de l'air quand même. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a vaccinée définitivement du besoin d'être déguisée pour une fonction. Alors dans le cadre d'un uniforme, t'as pas le choix, mais ça, c'est utile, hein, ça permet d'avoir une distance aussi, c'est-à-dire c'est pas tout à fait toi la nana dans l'hôtesse de l'air, mais dans les faits, porter un tailleur jupe ou quoi que ce soit qui me contraigne physiquement, c'est le seul truc, je pense, tu vois, un truc...
Faut que tu respires, en fait. Faut que ton corps respire.
Faut surtout que je bouge. Faut que je bouge. Je m'exprime beaucoup avec mon corps, donc il faut que je sois... Voilà, mes vêtements m'accompagnent, c'est pas l'inverse, quoi.
C'est pas la peine de te demander, je pense. Est-ce que tu suis la mode maintenant?
Alors, j'adorerais te dire non, mais je pense que malgré nous, on suit quand même toujours un peu, tu vois. On voit les gens dans la rue. Enfin, t'es forcément un peu influencé par même des gens que t'aimes bien ou des. Moi, ça m'arrive. Hein, j'ai pas de complexe avec ça. De trouver un truc sympa sur quelqu'un, et lui envoyer un MP sur Instagram en disant ah j'aime bien ton pull, il vient de chez qui. Bon. Alors, est-ce que c'est ça, suivre la mode? Ça m'arrive de regarder et de m'inspirer. Alors, chez moi, ça va être souvent inconscient. Mais je me rends compte, tu vois, que quand même, je ne suis pas non plus très loin de ce que je croise dans la rue.
L'accessoire rend-il élégant?
L'accessoire anti-élégant.
Rend-il élégant, pardon.
Ah, l'accessoire anti-élégant. Oh, ça finit une silhouette.
Qu'est-ce que tu aimes?
Ça donne, j'aime avoir quelques bijoux, mais qui, dans mon cas, sont souvent des bijoux qui ont une histoire. Les choses de valeur m'intéressent pas. Donc, c'est des bijoux qui racontent la naissance d'un enfant, ou un voyage en Inde, ou un cadeau de mon mari. Tu vois, c'est des choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur le plan symbolique que sur le plan financier. Si on considère que les chaussures sont des accessoires, oui, ça, j'accorde beaucoup d'importance au choix et aux soins de mes chaussures, quelles qu'elles soient. Et puis, bah là, c'est l'hiver. Moi, j'aime les bonnets, j'aime les bandanas en cachemire, j'aime les jolies paires de gants polainées. Alors, et les sacs, ouais, j'aime bien les sacs.
Et sac plutôt tote bag ou heat bag?
Pas du tout heat bag. Ah non, pas du tout heat bag. C'est pareil, il faut que tout mon barda rentre dedans. Alors, je peux, comme je suis à vélo, tu vois, je vais assez facilement avoir un joli sac avec mon ordinateur et un bouquin et les choses que je transbahute qui va être dans la petite valisette de mon vélo. Et puis, ça m'empêche pas d'avoir éventuellement une banane rive droite. Tu vois, elle fait des très jolies. Moi, je trouve qu'elle fait des très jolies choses. J'en ai une que j'adore en tartan. Et ça, je vais l'avoir autour de mon buste sur mon vélo parce que dedans, il y a quand même mon téléphone, mes clés, enfin, la base absolue du... Le tout venant, quoi.
Alors, tu vis entre Paris et Belle-Île. Est-ce que quand tu es à Belle-Île, tu t'habilles complètement différemment? Ou tu restes fidèle à ta ligne de conduite?
Pas vraiment. En été, alors, en été, je vais quand même être beaucoup en short. Là, pour la peine, je suis en short chemise. Là, c'est quasiment un uniforme. Je dois avoir 10 shorts et plein de chemises. Évidemment, un ou deux gros pulls. L'histoire se passe quand même à Belle-Île-en-Mer. Et après, j'ai longtemps lutté contre les sabots, mais je déteste les tongs. Alors, à un moment donné, il faut bien avoir quelque chose au pied. Et finalement...
La chose que tu ne porteras jamais aussi.
À la tongue, ouais. Non, ça, je
Pourquoi
comprends pas. Je trouve ça... Alors, c'est hyper personnel. Hein. Alors déjà, les gens qui sont en tongue à Paris, j'ai envie de leur laver les pieds. Quoi. Je trouve ça hyper crade. Et je trouve ça moche. Enfin, je comprends pas. Enfin, je trouve ça juste... je préfère nu-pied. J'adore être nu-pied. Mais la tongue, non, c'est un truc qui m'échappe. Du coup, je me suis rangée côté sabots. Donc, j'ai pas mal de sabots.
Birkenstock.
You et c'est une marque de Charente que je trouve super chouette. Et puis, bien sûr, j'ai des sabots Birk, y compris des sabots fourrés, évidemment, tu vois, le sens du confort. Et ça, oui, tu peux me croiser à Belle-Île sur mon vélo avec un short, une paire de Birk et une chemise qui vole, quoi.
Quelle éducation mode as-tu donnée à tes filles?
Elles se sont très bien passées de moi.
Ouais, toi, tu ouais, comme tu disais tout à l'heure.
J'ai essayé des trucs. Après, je trouve que, tu vois, ma fille est née à 23 ans et la dernière à 5 ans. Donc, évidemment, c'est pas la même génération. L'une pourrait littéralement être la mère de l'autre. Celle de 23 ans, quand elle était petite, me désespérait parce qu'elle n'aimait que les robes de princesse, les trucs à paillettes, les chaussures roses.
Barbie.
Ouais, Disney, vachement, tu vois. Alors, pour moi, c'était quand même assez angoissant, moi qui ne porte, tu vois, c'est très éloigné de ça. Et je comprenais un peu, enfin, j'avais du mal parce que vraiment, je voyais pas où est-ce qu'elles avaient eu envie de ça. Alors, moi, je leur achetais des trucs chez Bobo Chose, des petits trucs chez Zara avec des sweats imprimés, des leggings, du confort, tu vois. Et puis, des petites jupes, des petits machins. Mais alors, la grande, c'est marrant, ça a vachement évolué. La grande, elle les portait quand même parce que je les achetais. Donc, voilà. La petite, elle me les renvoie carrément, quoi. C'est un renvoi
Françoise.
À l'expédition. Françoise, si je lui achète des trucs qu'elle aime pas, elle les porte vraiment pas. Et je suis assez étonnée parce que elle a 5 ans et elle est hyper à l'aise avec son style. Elle sait ce qu'elle aime. Elle, quand je l'emmène faire du shopping, ce qui évidemment n'arrive pas toutes les 48 heures, mais elle, je vois qu'elle a un œil. Elle sait ce qu'elle aime. Les matières, les couleurs, c'est assez drôle. Et du coup, c'est assez différent de mes goûts. Et ça m'amuse de voir que bah ouais, c'est alors sans doute parce qu'elle a 4 grands frères et sœurs. Hein. Donc, elle a tout le loisir d'observer et puis de voir que les autres se débrouillent très bien avec leurs fringues. Mais alors, ouais, je trouve ça assez marrant de voir...
C'est la nouvelle génération?
Bah, alors, je sais pas, elle a quand même que 5 ans. Je sais pas si on peut déjà parler d'influence de la société sur cette petite chose. Mais en l'occurrence, ouais, elle a quand même des goûts déjà bien affirmés. C'est marrant.
Alors, à 50 ans, les femmes s'offrent souvent un joli sac, un joli bijou. Alors, toi... Tu t'es offert un lifting et tu ne t'en caches pas.
Bah non, pourquoi je m'en cacherais? C'est pas illégal.
Ah, oh, bah tu sais, il y a beaucoup. C'est tabou, le lifting.
Oui,
est tabou.
Oui, ouais. Il y a plein de trucs qui sont tabous, mais on ne sait même pas pourquoi. Ils sont juste tabous. Ouais, en fait, je ne suis pas très Hermès. Je n'avais pas vraiment envie d'une Rolex. Et surtout, j'ai toujours fait super attention à ma peau. C'est important pour moi. D'une part parce que je déteste me maquiller et que du coup, je trouve que la première des politesses, c'est quand même de prendre soin de sa peau. Et puis, la peau dit beaucoup de nous. Donc, j'ai toujours fait super gaffe. Et puis, j'ai une alimentation hyper saine, en plus avec la maison Plisson, tu vois. Je mange jamais rien d'industriel, je fais hyper gaffe à tout. Du coup, j'ai la chance d'avoir quand même une peau qui a bien tenu sur la distance.
Non, t'as une très, très jolie peau. D'ailleurs, j'étais très étonnée quand tu m'as parlé de ton lifting. Souviens-toi, je t'ai dit, mais non, c'est pas vrai.
C'est vrai. Écoute, ça m'a pris comme beaucoup de choses, un peu comme ça, un matin. Je papotais avec Perla.
Perla
Servan-Schreiber, que j'aime beaucoup. Et je lui disais, oh, j'aime pas, là, j'ai une espèce de bajou qui commence à arriver et tout. Et elle m'a regardée et puis elle m'a dit, bah, t'as qu'à faire un lifting. Je dis, ah oui, t'as raison. Et deux jours après, j'étais dans le cabinet du chirurgien. Et puis en avant, je l'ai fait. Bon, c'est pas trop ma nature d'avoir peur. Je trouvais ça très rigolo.
Et comment réagit ton mari et tes enfants?
Alors, mon mari a tout de suite été contre. En fait, il était un peu stupéfait. Il avait peur. Il avait peur de pas me reconnaître.
Bah oui.
Il me disait, non, mais attends, si je reconnais pas ton regard ou ton sourire, ce que je comprenais, mais j'avais pas du tout envisagé de pas, qu'on reconnaisse pas mon regard et mon sourire. Tu vois, c'était exclu. Ma fille aînée m'a appelé Bogdanov pendant 2-3 semaines avant l'opération pour m'encourager. Elle était un peu, déçue, je crois, parce que elle me disait, mais toi, tu te maquilles pas, tu t'en fous, justement, de ce que les gens pensent de toi, c'est une chance et tout. Je lui ai dit, non, mais en fait, tu sais, dans la vraie vie, je suis comme tout le monde, je triche beaucoup. Bah, je me teins les cheveux, tu vois, j'ai 52 ans, ça serait quand même un peu un miracle, je suis pas, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels je triche, bien sûr, j'ai toujours fait des petites injections à droite, à gauche et tout ça. Mais, enfin, moi, je fais ça, d'autres font d'autres trucs, et alors, enfin.
Chacun fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, et puis ce qui lui semble juste et acceptable au moment de le faire. Donc, j'y suis allée, la fleur au fusil, le cœur battant. Et puis après, j'avais exfiltré mes autres enfants, je fais ça pendant les vacances scolaires, parce que quand même, c'est un peu impressionnant. Les jours qui suivent l'opération sont un peu spectaculaires. D'ailleurs, ma fille aînée qui était restée avec moi rentrait dans ma chambre le matin, elle faisait une photo, elle me disait un jour, un visage. Ça a duré 10 jours.
Un jour, elle va te faire chanter. Elle peut te faire chanter.
Ah, je les ai, les photos. Mais j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Je recommande à fond. C'est un budget, on va pas se mentir. Mais bon, du coup, à partir de 38 ans, faut commencer à mettre un peu de sous de côté. Et puis, si à 50, on n'a pas envie d'un lifting, bah, il sera toujours temps de s'offrir un Kelly. Enfin, tu vois. Mais, en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien au moral de se retrouver dans le miroir? Tu sais, il y a quand même un âge. Enfin, je sais qu'il faut pas dire ça. Mais il y a un âge où quand tu te croises toi-même dans la vitrine d'un magasin, tu te demandes qui est cette dame un peu sévère.
Oui, parce que dans nos têtes, on est en... Okay, on, bah est, d'abord, on est 71 on a moins pris,
les deux. Ouais, bon, donc,
on a moins pris dans notre tête que dans voilà. notre tronche. Mmh. Et puis, c'est comme ça, le corps s'abîme. Il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas très grave. Moi, vieillir, ce n'est pas du tout un truc qui me dérange. Je donne mon âge très volontiers, etc. Mais l'espérance de vie fait qu'on va encore avancer en âge si tout va bien. Bah, personne n'a dit qu'il fallait absolument être décatif. Hein. Ce n'est pas un forfait, tu vois. C'est une chance de vieillir. Mais c'est surtout
une chance.
Et autant
bien vieillir.
Bah, c'est une chance d'avoir accès en 2023 à plein de petits trucs, pas forcément des liftings, mais plein de petits trucs dans l'hygiène de vie quotidienne qui font que, bah ouais, on a la chance de pouvoir trouver jolie.
Il y a aussi voilà. des bonnes crèmes, il y a tout
bien
ça.
Bien sûr.
Et une bonne alimentation, des vitamines. Bah
avant tout, une bonne alimentation, pas de produits industriels, éviter les clopes, faire attention à avoir une hygiène de vie, avoir un peu d'activité, tu vois, physique, sportive.
Toi, c'est le yoga, ta pratique.
Moi, j'adore le yoga, mais j'ai eu des périodes, j'ai des cycles, hein, j'ai fait du pilates, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait de la natation pendant très longtemps. Mais en tout cas, je pense que c'est un tout et que tout se voit sur notre tronche. Donc, pour la peine, autant y mettre un maximum de trucs chouettes à l'intérieur, tu vois.
L'habit fait-il le moine ?
Bah, moi, j'y crois donc pas. Et je me méfie beaucoup des... Bah, quand je croise quelqu'un qui est particulièrement... qui a fait vraiment un effort, et tu le vois bien, tu vois, les gens qui vont être très précis dans le choix de leurs vêtements, des accessoires, etc. Je trouve ça toujours, malgré moi, un petit peu triste. Ça manque tellement de spontanéité. Alors que finalement, quand on est soi-même et que... Enfin, moi, j'aime rencontrer des gens, pas des porte-manteaux. Alors, si la personne est hyper bien dans ses pompes en étant très apprêtée, très précise, très brushingée, machin, bon, très bien. Mais j'ai toujours un doute. J'ai toujours l'impression que c'est plus une posture et que c'est plus un signe d'insécurité qu'autre chose.
Bon, là, tu te sens en sécurité. Je suis arrivée sous la tempête.
Ouais, avec un pull marine magnifique. Tu vois ? Non, mais évidemment, tu vois.
Complètement décoiffée.
Ben ouais, mais.
Bon, je te mets à l'aise alors, du coup.
Ben, en fait, t'es toi-même et si tu arrives comme ça, c'est que t'es à l'aise avec toi-même en étant comme ça. Donc, ça me va. Pourquoi, tu vois, ça aurait été bizarre que t'arrives hyper apprêtée chez moi devant une tasse de thé et un feu de cheminée.
Est-ce que t'as une icône de mode ?
Du coup, pas trop. En fait, je dirais que j'aime les gens qui arrivent à être eux-mêmes sans être, voilà, dans l'air du temps à tout prix, changer de style tous les deux ans pour correspondre, etc. Voire même changer de corps parce qu'il faut, tu vois, rentrer dans ceci ou dans cela. Je pense à Karl Lagerfeld, tu vois, qui avait fait un régime drastique pour rentrer dans les vêtements d'Eddy Slimane.
Oui,
je trouve ça dingue. Il y a beaucoup de filles, je pense, qui
en
font
ce moment,
des efforts dingues.
Notamment de nos âges.
Ouais, pour
sur les réseaux. Ça, c'est le danger des réseaux sociaux, je pense.
Oui, sans doute. Bah, avant, c'était la presse, mais au bout du compte, c'est toujours un peu les mêmes perfidies, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est. Perso, je trouve que c'est encore plus violent avec Instagram parce que maintenant, il y a plein de coachs de ci, des coachs de ça, des coachs de trucs. Et puis finalement, moi, ça m'arrive. Moi, je sais que ça m'arrive de me dire waouh, oh là là, comment elle fait pour être aussi mince, ou comment elle fait pour ci, pour ça, pour être aussi musclée, galbée à son âge.
Ah ouais, non, moi,
ça t'arrive ?
Je peux avoir en février, je peux me faire des petits coups de flip en mode ah merde, ouais, quand même, ça va bientôt être l'été. Puis d'un coup, je réalise qu'en fait, je vais être en maillot de bain 15 jours. Bon, on va peut-être pas se mettre la rate au courbouillon pour avoir le corps du siècle. J'ai 52 balais en plus, donc il y a un moment donné, je pense que c'est cool de pouvoir être un peu détendu par rapport à ça. Je fais du sport, je fais attention, mais je sais quels sont mes points forts, mes jambes. Je sais quels sont mes points faibles, bah tout le reste. Et du coup, quand tu me vois en short, en général, c'est que j'ai pris 3 kilos et qu'ils sont quelque part entre la tête et les fesses.
Quelle est ta définition d'élégance ?
Alors, ça sera pas vestimentaire. C'est évidemment une question de comportement, d'attitude, de rapport à l'autre. Le comble de l'élégance, pour moi, c'est l'empathie. Enfin, c'est quelque chose qui relève plus du rapport à l'autre. L'élégance, si ça devait être absolument vestimentaire, l'élégance, c'est être soi-même et l'assumer absolument en s'émancipant du regard des autres et sans non plus imposer. S'imposer comme étant le roi du style ou tu vois en étant un prof ou en étant un ayatollah de ce qu'il faut porter ou pas porter. L'élégance, c'est voilà d'être bien avec soi-même et à l'aise avec son rapport aux autres.
Alors j'ai une dernière question que je pose, c'est la première fois que je la pose, mais je dois le dire. Comment tu fais pour être toujours de bonne humeur ? Parce qu'à chaque fois que je te croise,
Tu me files la pêche.
C'est gentil. Écoute, je n'ai pas de secret particulier, si ce n'est bien sûr l'alcool et la drogue. Mais en vrai, je crois que je suis peut-être pas née de bonne humeur, mais j'ai eu, je te le disais au début, des accidents de vie et un parcours un peu particulier. Et je crois que un jour, je me suis réveillée en décidant que la vie allait être chouette, légère et douce. Et je m'efforce qu'elle soit chouette, légère et douce au quotidien. Et j'ai envie. Je crois que je connais le prix et je sais qu'à la fin ça s'arrête et du coup j'amortis. Mon beau-père qui a 90 ans dans 3 semaines, quand il m'a rencontré, il a dit à son fils qu'elle aime épouser. Oh là là, Delphine, elle a qu'une vie, mais la vache, elle amortit. Voilà, je veux en profiter pleinement. Je veux bouffer la vie à pleines dents.
Merci infiniment pour cette interview qui fait du bien.
Merci à toi.
Alors, Maison Plisson pour les Parisiennes et les Parisiens et si les non-parisiens.
Ouais, on a plein de gens qui
viennent
de Beaumarchais province.
Boulevard
Beaumarchais, il y a le marché et le restaurant et il y a un restaurant dans le Jardin des Tuileries à Paris.
Merci infiniment Delphine.
Merci à toi, avec grand plaisir.
Merci à vous chers auditeurs et n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. À la semaine prochaine.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.